C'est un podcast Vivre FM. Et on retrouve notre invitée, Francine Campa, PDG du cabinet Desrolles. On va expliquer ce qu'est le cabinet Desrolles dans quelques minutes. Mais alors, vous êtes derrière, entre autres, vous êtes derrière ces leçons de choses, le renouveau de ces leçons de choses, des leçons de choses qui datent du 19e siècle et même avant. Alors, qu'est-ce que c'était exactement, Francine ?
Bonjour, tout d'abord, Carole, merci de m'accueillir aujourd'hui et d'accueillir le cabinet Desrolles, cabinet d'histoire naturelle, une institution unique au monde qui a rayonné à partir du début du 19e siècle, notamment dans l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'une leçon de choses ? C'est une question très intéressante et très vaste. Ce sont des termes qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Alors, je ne suis pas historienne des sciences, donc de l'éducation, mais les leçons de choses, c'est avant tout un mode d'enseignement, une manière d'être au monde qui consiste à observer ce qui nous entoure et à en déduire un apprentissage et une connaissance.
Oui, oui. Alors on va par exemple aller cueillir des noix, des fruits dans la nature et puis on les ramène à l'école, c'est ça, dans la salle de classe, c'est comme ça que ça fonctionnait et puis on les étudie.
Alors pas exactement, ça peut être une des manières de faire les choses. D'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas une manière d'enseigner ou de travailler avec les leçons de choses. Ce n'est pas une matière qui est aujourd'hui officiellement enseignée. C'est plus un mode pédagogique dont les enseignants aiment s'emparer aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde assez complexe où nous avons perdu tout lien à la nature, par exemple. Et aujourd'hui, partir, comme vous dites, d'une noix ou d'une feuille d'arbre permet de comprendre en arborescence ce monde qui est le nôtre et qui nous entoure. Si on reprend l'exemple de la noix, sans même ramener la noix en classe, prenons une noix, nous la posons sur la table et nous observons. Nous essayons déjà, si elle a été trouvée par terre, de comprendre d'où elle vient, comment elle est venue ici. Donc on observe ce qui se passe autour. Il y a un arbre, est-ce le noyer ? Est-ce qu'il y a d'autres noix qui sont attachées à l'arbre ? Ensuite, cette noix a une grosse coque. Pourquoi a-t-elle une coque ? À quelle saison sommes-nous quand elle tombe ? Et puis, si on arrive à l'ouvrir, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. On va voir qu'elle est fraîche, qu'elle est un peu suintante. Eh bien, on la prend en main et on peut voir qu'éventuellement, on peut faire peut-être une matière grasse avec. Et là, on réfléchit à l'huile de noix. Et puis, petit à petit, on peut aussi se dire, tiens, la branche de l'arbre a l'air particulièrement intéressante. Qu'est-ce que je peux en faire ? Quelles sont ses teintes ? Comment sont ses nervures ? Est-ce que je peux l'utiliser pour faire des meubles? Et cela, les choses en entraînant une autre, on comprend petit à petit, à partir d'un objet que l'on a trouvé, ramassé, comment le cycle de la vie se fait et comment les objets et la vie qui nous entoure se constituent en domino.
Oui, oui. Alors un même objet peut donner lieu à plusieurs leçons de plusieurs heures, même de plusieurs jours.
Ah, je pense que surtout... les leçons de choses sont surtout un état d'esprit. C'est un mode d'enseignement, mais c'est également un état d'esprit. Être curieux du monde. Donc, quand on est curieux du monde, je dirais que on y passe sa vie entière et on partage cette connaissance. Oui. C'est pour cela que Desrolles, dans les années 1860, a édité ces leçons de choses sous forme de planches pédagogiques. On les retrouve encore dans notre magasin, dans notre cabinet d'histoire naturelle.
C'est-à-dire que vous vendez les mêmes, celles de 1860 ? Vous vendez les mêmes planches ?
Absolument, on a les planches pédagogiques. Alors, il nous reste encore quelques planches originales. Et puis, surtout, nous les rééditons parce que ces planches et ces leçons de choses connaissent un succès incroyable. Nous avons fait deux ouvrages il y a environ une dizaine d'années chez Michel Lafon, Leçons de choses, où nous avons édité des centaines de planches pédagogiques qui ont servi à transmettre le savoir aux enfants pendant près de 100 ans dans plus de 100 pays dans le monde. Et ce livre a connu un succès incroyable, plus de 250 000 exemplaires vendus. Ces planches leçons de choses sont comme une Madeleine de Proust pour beaucoup, et puis surtout une manière de transmettre des connaissances et une curiosité du monde.
Oui, mais alors c'est étonnant parce que ces planches, elles sont très belles, elles sont très jolies à regarder, c'est du beau travail, mais aujourd'hui on est à l'heure du numérique. Est-ce que les enfants vraiment se fascinent pour ces planches comme on pouvait être fasciné dans le temps ?
Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que vous avez dit un mot essentiel, Carole, c'est que ces planches sont belles. Effectivement, elles ont un esthétisme certain et cet esthétisme n'est pas arrivé là par hasard. Ces planches, elles contenaient non seulement un savoir scientifique, mais également elles étaient artistiquement dessinées pour que l'enfant ait une curiosité, ait une appétence à ce qu'il voit sur ces planches pédagogiques. Parce que quelque chose de beau, avec des couleurs chatoyantes, des formes intéressantes, variées, bien disposées, attire l'attention, attire l'œil. Alors, le numérique, vous savez, j'imagine que quand le livre est apparu, les personnes, en fait, à l'époque, ont dû se dire « Oh là là, mais on ne va plus parler, les livres existent ». Le numérique est un outil, c'est un outil formidable. Si ces planches pédagogiques peuvent être sur nos écrans, sur nos téléphones portables, tant mieux. Mais ça ne remplacera jamais le contact au réel, et ça ne remplacera jamais cet esprit que l'on doit avoir de valoriser le beau, de comprendre le monde qui est le nôtre et de comprendre cet incroyable écosystème. Donc le numérique, oui, à 100%, on n'est pas dans la nostalgie, on est dans une manière d'être au monde, d'éveiller la curiosité.
Oui, alors concrètement, si une maman qui fait par exemple l'école à la maison voulait s'emparer de cette pédagogie, elle procéderait comment ?
Eh bien d'abord, elle se mettrait avec son enfant. Parce que ça, c'est absolument essentiel. Pour toute pédagogie, il y a un rapport de maître à élève qui est essentiel. Non pas l'un qui prend l'ascendant sur l'autre, mais un véritable échange entre les deux. Et puis ensuite, elle partirait avec son enfant d'un point concret qui se trouve autour d'elle, que ce soit une pomme, que ce soit par exemple un verre de lait, qui est un usage courant pour l'enfant. Eh bien, si on prend le lait, il y a d'ailleurs chez Derol une planche pédagogique sur le lait. D'où vient ce lait ? Pourquoi cette couleur blanche ? Quand peut-on boire du lait ? À quoi ça sert ? Comment la vache produit le lait ? Pourquoi elle le produit ? Comment ce lait est conservé ? Et ainsi de suite, encore 1000 questions que l'enfant peut poser, parce que ces leçons de choses, elles font aussi appel à nos sens. Il est très important, ce n'est pas juste un savoir théorique, c'est un savoir non seulement concret, mais qui fait appel à l'ensemble de nos sens. Donc le lait, on le goûte. Quel est son goût ? On le partage et on peut ainsi constituer ce que les Derol avaient fait avec ses planches pédagogiques. On peut aussi créer sa propre planche pédagogique, cette arborescence du savoir qui est intéressante et qui permet une transmission et qui permet, dans le monde aujourd'hui justement très numérisé et très changeant, d'apprendre à apprendre.
Oui, alors ces leçons de choses, on en parle depuis le début du 19e siècle, mais vous me disiez tout à l'heure en antenne que c'est encore antérieur.
Oui, absolument. Bien, c'est antérieur parce qu'aujourd'hui, on a l'esprit que le savoir, l'école, est extrêmement structuré. On emmène ses enfants à l'école, ils ont cours de telle à telle heure, ils ont les devoirs, les supports de cours, les professeurs, les cartables, le matériel. Enfin, c'est un véritable monde. Mais cela n'a pas été ainsi pendant des siècles et des millénaires. L'école est une invention assez récente. Par contre, la soif d'apprendre, non. Donc, c'est pour ça que ces leçons de choses sont un mode d'enseignement qui est probablement très ancien. Je n'ai pas de date précise à donner parce qu'on ne peut donner une date précise sur un sujet comme ça que si la chose est nommée précisément. À ma connaissance, je n'ai pas de date précise à donner, mais c'est un mode d'enseignement qui correspondait et qui a tout à fait correspondu à une manière de vivre en harmonie avec la nature et avec le monde qui nous entoure.
Oui, oui. Et alors, 19e siècle, c'est théorisé, c'est mis en avant et c'est appliqué à l'école.
Absolument, parce que, comme vous le savez, le 19e siècle est un siècle de grande transformation sociétale. J'entendais tout à l'heure des choses sur le baron Haussmann. C'était absolument passionnant, le reportage sur les égouts.
Oui.
Et donc, en fait, ces transformations sociétales font que les personnes sont extraites d'un monde pour aller vers un autre monde. Et donc, il faut structurer, apprendre à tous à vivre ensemble. L'école prend une dimension particulière. L'école primaire prend une dimension particulière. C'est aussi l'époque où les grands pédagogues commencent à s'interroger, à écrire sur comment apprendre aux enfants comment capter leur attention, comment leur faire comprendre un monde en pleine mutation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que le monde n'a jamais été dans une telle mutation, mais je pense que si vous interrogez quelqu'un au 19e siècle, entre les épidémies, l'exode rural, l'électricité, le gaz en ville, les véhicules, le cinéma, la photo, les révolutions politiques, on en parlait aussi il y a quelques minutes. Un monde en mutation sans cesse, mais c'est l'histoire du monde et de la vie.
Oui.
C'est pour ça que 19e siècle, on a commencé à structurer cela. Et la maison d'Hérol a joué un rôle essentiel en structurant ses méthodes pédagogiques. D'Hérol était, fin 19e siècle, le premier fournisseur de l'instruction publique, l'ancêtre de l'éducation nationale, avec la vente de matériel pédagogique, non seulement les planches, bien entendu, mais également du matériel scientifique, les fameux mobiliers, tableaux noirs, chaises, baromètres, lamelles d'observation, etc.
Ouais. Alors j'imagine que si on a un musée sur l'école française, on fait appel à vous pour acheter du mobilier, vous pourriez fournir ?
Alors, nous ne faisons plus de mobilier. Aujourd'hui, D'Hérol a un rôle qui est tout aussi important. Non seulement nous continuons à faire vivre notre cabinet de curiosité, qui est connu dans le monde entier, et je vous invite à y venir pour voir toutes les merveilles que la nature présente au 46 rue du Bac, mais également, nous avons un rôle de sensibilisation à l'écologie.
Oui, on va en parler au cours de l'émission, Francine. Je voulais qu'on arrive à cette période contemporaine,
oui,
où là on essaie de remettre en place ces leçons de choses à l'école primaire.
Oui. Et
il y a une pétition actuellement qui court. J'ai l'instigateur de cette pétition en ligne, Édouard De Breuil, bonjour.
Bonjour.
Édouard, vous êtes le fondateur du magazine Épatant, dans lequel on parle justement de ces leçons de choses, de ce retour des leçons de choses. Cette idée de remettre en place cet enseignement, cette pédagogie des leçons de choses, ça vous est venu comment ?
Bah, écoutez, d'abord parce que j'ai moi-même des enfants en primaire et que j'ai eu la chance, moi, de par ma génération, de vivre les leçons de choses quand j'étais enfant. Et j'ai constaté que, en tout cas dans le milieu urbain, cette matière avait pratiquement totalement disparu. Et alors je dis en milieu urbain parce que depuis, j'ai déménagé et je vis en province. Et du coup, mes enfants sont dans une école en province, en Bretagne, où les professeurs le font, je dirais, un peu naturellement, sans que ça soit formalisé comme ça.
Oui.
Moi, ce qu'on a trouvé, c'est juste au magazine Épatant, pourquoi on a trouvé ça nécessaire de parler de ce sujet et de lancer cette pétition, c'est parce qu'on est devant une génération à qui on demande de protéger la planète, d'y faire attention, de s'engager, etc. Et on se rend compte que les gamins ne savent même pas faire la différence entre un chêne et un bouleau. Et ils ont, voilà... Une connaissance, je dirais, pratique, matérielle et un accès à la curiosité pour la nature qui est pas toujours au top. Donc nous, on pense que pour fabriquer des gens qui veulent défendre la nature, on défend ce qu'on connaît et ce qu'on comprend. Donc du coup, on pense que c'est très important, en accompagnement de tout ce qu'on demande à cette génération-là, de aussi leur redonner la possibilité de redécouvrir la nature et l'écologie, non pas seulement théoriquement, parce que ça, théoriquement, hein, on n'a même pas besoin de l'école, il suffit d'aller, il y a de très bonnes émissions à la télé, C'est pas sorcier, etc., qui expliquent les choses, etc. Mais aussi par les sens, par l'approche concrète, par le toucher, par la compréhension, par l'image, par les planches, etc. Voilà,
oui.
Pourquoi on s'est engagé là-dedans.
Oui, et vous êtes, vous sentez qu'il y a du soutien derrière, il y a des gens qui se sont dit « Ah mais tiens, c'est une bonne idée ?»
Bah écoutez, on a dépassé les 500 signatures, donc... oui, il y a des gens qui se mobilisent. Maintenant, il faut faire connaître cette pétition. Il faut que les gens qui ont vécu cette période-là, où parce qu'un jour il y a un fonctionnaire quelque part qui a supprimé cette matière, hein, qui était une matière assez essentielle dans notre enseignement dans les années 60-70. Je veux dire, c'est vrai qu'à l'époque on parlait pas encore de développement durable, on parlait pas encore d'écologie beaucoup, etc. Mais maintenant, ça devient vraiment urgent de redonner un peu de connaissances et d'appétence pour la connaissance du vivant et de la nature et du minéral et de voilà à toute cette génération. Donc oui, j'espère que les gens vont se mobiliser un petit peu et quand nous aurons suffisamment de signatures, nous irons demander à Monsieur Blanquer ou à son successeur de réfléchir à la question.
Oui. Oui. Alors, c'est vous-même, vous avez eu ces cours, ces leçons de choses, vous les avez.
Oui.
eu à l'école.
Ah oui, j'ai 59 ans, donc je suis parfaitement dans les générations qui ont connu ces leçons de choses. Et c'était à l'époque, on appelait ça la 10e, la 9e. C'était une matière, quoi.
C'était une matière comme la physique, comme l'histoire, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et enfin, bon, en 9e, on fait pas de physique, et en 10e, on fait pas de physique. Non, c'était une matière des petites classes qui permettait d'éveiller la curiosité, de s'émerveiller. Les écoles étaient équipées. Il y avait effectivement des planches. Alors, il y avait des planches des rôles, puis il y avait d'autres éditeurs à l'époque qui faisaient aussi ça. On apprenait par l'image, par l'exemple, par le toucher. On découvrait le corps humain, on découvrait, on apprenait les feuilles, les animaux, etc. Il y avait toute une éducation qui était faite autour de ça. Il y avait aussi des sorties de temps en temps où on allait sur le terrain voir les choses, voir ce que c'était qu'un chêne, voir ce que c'était qu'un gland. Voilà.
Oui.
Donc.
Mais aujourd'hui, on se plaint toujours, les professeurs, enfin les parents se plaignent toujours qu'il y a de moins en moins d'heures de cours. Rajouter des leçons de choses, ça va être compliqué.
Il n'y a pas besoin de rajouter. Ça fait partie, à mon avis, des enseignements essentiels. Au même titre que d'autres matières, c'est aussi important de comprendre le vivant et la nature que de parler le français, que de savoir faire des additions, etc. Ou alors on met une hiérarchie dans les choses et voilà, on fabrique des gens qui sont déconnectés de leur environnement. Et voilà. En tout cas, je pense qu'on ne défend bien que ce qu'on connaît. Et ce que je vois de cette génération-là, puisque j'ai des enfants aussi un peu plus âgés, c'est que bon, il y a beaucoup de discours, mais après ça, dans leur comportement, quand il s'agit de passer à l'acte et de trier leurs poubelles, de faire des choses, etc., c'est pas toujours, on retrouve pas tout un engagement parfait. Donc je pense que il y a plein de choses à réfléchir. Je dis pas qu'il y a des solutions. Je veux pas dire que moi j'ai une solution toute faite pour ça, mais je pense qu'il faut réfléchir au niveau de l'éducation pour réintroduire. Alors des leçons de choses, il s'agit pas de refaire ce qui était fait exactement dans les années 70. Je pense qu'il faut revisiter la chose. Et la remoderniser et refaire sans doute une approche un peu différente de ce qu'on faisait dans les années 70. Mais ça nous paraît en tout cas essentiel d'y réfléchir et de poser la question. C'est vrai que des rôles pour ça est c'est une espèce de musée actif moderne des leçons de choses. Et j'engage les gens à aller visiter l'endroit parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire.
Oui, oui, vous êtes d'accord avec ça, Francine ?
Absolument pas, Edouard. Bonjour, Edouard. Merci beaucoup pour cette intervention et ces mots, surtout que je partage. Je bois du petit lait, pour reprendre le terme que j'employais tout à l'heure. Oui, l'émerveillement, le terrain, comprendre, réactualiser, se sentir responsable de ce que l'on voit et de ce que l'on est. Effectivement, je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour comprendre que nous ne sommes pas faits que d'un intellect, que d'un cerveau qui fait appel à la raison. Nous vivons aussi d'émotions, de plaisirs et de nos sens. Et ça, aujourd'hui, c'est malheureusement pas assez valorisé. Donc, les leçons de choses, c'est revenir à sentir, toucher, respirer le monde, aller dans la nature et déjà se sentir bien. Des choses toutes simples comme s'allonger sur l'herbe, entendre les oiseaux, savoir à quelle heure ils démarrent leur chant le matin.
Oui.
C'est petit à petit, c'est une curiosité et un éveil au monde qui doit se faire dès l'enfance, parce que c'est un élément socle de la personnalité. C'est un élément socle de ce que l'on doit être. Et effectivement, la nature, il ne faut pas... Je ne sais pas si vous avez à l'esprit, Carole, les livres de sciences naturelles de 6e. Enfin, on dit SVT, pardon, de SVT de 6e. Mais alors, en tant que mère, je me suis arraché les cheveux. Je ne suis pas la seule sur les arborescences du vivant, bon, qui sont absolument essentielles. Hein, c'est comprendre comment le monde est donc classé scientifiquement. Mais alors, je me dis, quand on aborde la nature uniquement par ce biais-là, mais ça ne fait pas envie. Donc oui, vive les sorties, vive la curiosité et vive les leçons de choses qui doivent nous accompagner du primaire jusqu'à la fin.
Oui, Edouard.
Mais surtout, oui, si je peux me permettre, c'est aussi une réflexion sur le rôle de l'école. Parce que je pense qu'à la maison, à la télé, etc., on est beaucoup dans la distraction. C'est-à-dire qu'on distrait les enfants de pas mal de choses essentielles. Et le rôle de l'école, c'est aussi de remettre un peu d'égalité entre les enfants là-dessus, c'est-à-dire qu'ils aient tous les bases et le socle commun, effectivement, de curiosité, voilà, et d'insertion dans leur environnement. Et je trouve que c'est à l'école de prendre en tout cas une part dans ce schéma-là. Et je pense que tout le monde médiatique, etc., n'est pas fabriqué autour de ça, et donc au contraire il a tendance à distraire les enfants de beaucoup de choses, et voilà, et donc c'est pas que l'intérêt des leçons de choses en elles-mêmes, mais c'est aussi une réflexion sur le rôle que doit avoir l'école.
Oui, oui. Édouard, vous pensez que avec l'instruction que vous avez eue, donc dans les années 60, 70, vous êtes mieux formé à l'écologie, par exemple, à comprendre le monde qui nous entoure qu'une personne qui est née après et qui n'a pas eu.
Alors, je ne sais pas. Je pense que tout le monde, chacun est différent. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'à 9 ans, j'étais inscrit au VVF et j'allais avec Christian Zuber coller des autocollants sur les dames qui avaient des manteaux de fourrure dans les beaux quartiers. Donc oui, ça a fait de moi un militant écologique à une époque où on parlait peu d'écologie. Mais je me suis toujours intéressé effectivement à l'environnement, à la nature. J'ai beaucoup navigué, j'ai beaucoup été en montagne, j'ai escaladé le Mont Blanc, le Kilimandjaro, les machins, etc. J'ai toujours été attiré par ça, et je pense que ça vient en partie de cette curiosité, non pas uniquement des leçons de choses, mais de tout un ensemble de choses qui ont éveillé ma curiosité dans des années très jeunes. Parce que, voilà, à l'époque, c'était beaucoup moins à la mode, toutes ces notions. Il n'y avait pas de réchauffement climatique, il n'y avait pas d'écologie, on n'en faisait pas un problème. Tout le monde était, vous souvenez, les années 70, 80, enfin 60, 70, 80, c'était des années où il y avait une certaine insouciance.
Oui.
Donc, voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'insouciance du tout, et que c'est d'autant plus essentiel de se reposer la question et d'essayer de comprendre pourquoi on a supprimé dans l'éducation ces notions essentielles et qu'on en a fait des arts mineurs, j'ai envie de dire, alors qu'ils auraient plutôt tendance à redevenir des arts majeurs.
Oui. Édouard de Breuil, alors cette pétition, on la signe où? Comment, si éventuellement on est intéressé par ce mouvement, on va vous rejoindre?
Ah bah vous allez sur le site épatant-presse.com. Non, c'est à moi, monsieur. Merci. C'est vous allez sur le site épatant-presse.com et vous avez un lien qui vous amène directement à la pétition qui est sur change.org aussi. Donc vous pouvez la trouver aussi sur change.org.
Très bien, parfait. Et puis le magazine, on le trouve où, le magazine Épatant?
Ah bah dans tous les kiosques. Et puis il est aussi vendu par des personnes en précarité dans certaines villes de France, à Nice, à Lorient et à Paris.
Très bien. Merci à vous, Édouard de Breuil.
Merci, au revoir.
Très bonne journée.
Au revoir, Édouard.
Nous parlons des leçons de choses, ces fameuses leçons qui étaient enseignées en primaire dans les années, avant les années 80, puisque ça s'est terminé dans les années 70. Des leçons qui, il y avait une pédagogie qui permettait de se sentir, de mieux comprendre son environnement, d'être plus sensible à son environnement et de mieux protéger sa planète et d'être formé assez différemment. Est-ce que cette pédagogie des leçons de choses, Francine Campa du cabinet des Rolles, est-ce qu'elles sont semblables par exemple aux pédagogies des écoles Montessori ou ces nouvelles pédagogies qui sont enseignées dans des écoles privées en France ou par les parents?
Alors je dirais que ça n'est pas exactement semblable, mais c'est en fait complémentaire. Ça participe à cet esprit de vouloir créer chez l'enfant une appétence au monde, une curiosité, un esprit d'observation, un esprit d'émerveillement. Ces leçons de choses sont d'ailleurs particulièrement valorisées par des rôles, non seulement parce que dans les années 1860, on les a dessinées et transmises à des centaines de milliers d'élèves, mais aussi parce que aujourd'hui, Dérol recrée et a réécrit une pédagogie Dérol pour une reconnexion à la nature. Et cette pédagogie Dérol, elle repose sur des principes très simples, issus des fameuses leçons de choses, qui sont l'observation, observer le monde qui nous entoure, le comprendre et le restituer. Donc, trois points clairs et trois points que nous diffusons et valorisons à chacune de nos actions, puisque des rôles n'est absolument pas... On est issus de 200 ans d'histoire. On a traversé 200 ans d'histoire
oui,
de la France et du monde.
Oui, vous avez fêté vos 190 ans l'an dernier.
Exactement. Nous sommes très fiers de ces 190 ans et on espère être là pour les prochains 190 ans.
Mais je le souhaite.
Merci, Carole, avec surtout toujours un rôle actif à jouer. On n'est pas, nous ne souhaitons pas être momifiés dans le passé, mais bien au contraire être des acteurs du monde d'aujourd'hui, parce que ce monde d'aujourd'hui a des défis et des enjeux passionnants, et il faut en être.
Oui, oui. Et alors, le cabinet des rôles, est-ce que vous-même, vous donnez des leçons de choses au sein du cabinet ?
Alors, nous n'en donnons pas au sens que nous ne faisons pas classe sur le sujet, mais nous permettons à des milliers de visiteurs, les milliers de personnes qui viennent chez des rôles chaque année en plein cœur de Paris, nous leur permettons de mieux comprendre le monde. Et ce qui est intéressant chez des rôles, enfin du moins c'est notre vocation et notre objectif, nous sommes une boutique musée. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est de voir les livres d'or fréquentés par les plus grands artistes. Des rôles a été fréquenté par les plus grands artistes. Je parlais tout à l'heure de l'art, mais en fait, aujourd'hui, des rôles reposent sur le triptyque nature, art, éducation, qui reprend parfaitement ce que les leçons de choses doivent être.
Oui.
Et le lien à l'art est essentiel. Il a démarré dans les années 1910-1920. Des rôles rue du Bac, près de Montparnasse, attirent les surréalistes et puis, depuis, attirent les plus grands artistes. Nous avons fait une collaboration récente, enfin, il y a quelques années maintenant, avec Damien Hirst, des artistes chinois comme Wan Yongping, qui ont fait un immense Arche de Noé, inspiré de ce que fait des rôles et des pièces naturalisées chez des rôles. Et puis Yves Saint Laurent également, Woody Allen, bref.
Qui a tourné une partie de son film, d'un film.
Exactement, Midnight in Paris, tourné en partie chez des rôles, parce que des rôles est vraiment un lieu mythique dans Paris. Et c'est à ce titre-là aussi que nos visiteurs viennent nous voir. Alors, les visiteurs, qui sont-ils ? C'est intéressant. Il y a aussi bien des entreprises, des maisons de luxe, mais également, surtout, un public très familial, très transgénérationnel. Les grands-parents venaient déjà ici, ils viennent aujourd'hui avec leurs petits-enfants et ils continuent à transmettre cette vision du monde et cette appétence pour le monde.
Oui, alors on explique, le premier étage, c'est le rez-de-chaussée, c'est la boutique. Et lorsqu'on monte à l'étage, on se retrouve avec des animaux empaillés. C'est comme un zoo, c'est ça ?
C'est ce que l'on appelle un cabinet de curiosité,
oui.
Ou un cabinet d'histoire naturelle. En fait, au rez-de-chaussée, il y a la marque Le Prince Jardinier, fondée par Louis-Albert de Breuil, le propriétaire de la Maison des Rôles, qui a également le château-hôtel de la Bourdaisière en Touraine, où il a créé dans les années 90 ce qui est devenu le Conservatoire National de la Tomate, donc toujours une passion pour la biodiversité. Et cette passion pour la biodiversité devait être rattachée à une caution scientifique qu'a représenté des rôles. Donc au rez-de-chaussée, effectivement, plutôt l'univers du jardin. Et quand on monte à l'étage, il y a plusieurs salles en enfilade, incroyablement peuplées d'animaux naturalisés, d'insectes et d'œuvres d'art. Donc il faut savoir que les animaux naturalisés, on disait autrefois empaillés, ne sont pas tués, bien entendu, pour être chez des rôles. Nous avons des partenariats avec des zoos, des parcs animaliers. Nous respectons la convention de Washington sur la protection des animaux en voie de disparition. Donc ça, c'est essentiel. Et puis surtout, une explosion de formes, de couleurs d'animaux qu'on n'a pas l'occasion de voir ou d'approcher d'aussi près. Et les enfants sont surtout passionnés par cette approche du vivant. Être à quelques centimètres d'un loup, à quelques centimètres d'un tigre, d'un ours polaire, observer les écailles incroyablement bleues du morpho, comprendre comment fonctionnent les phasmes ou autres insectes, c'est rentrer dans l'univers.
Vous arrivez à naturaliser des phasmes ?
Alors, on n'arrive pas à les naturaliser. En fait, eux, ils ne sont pas naturalisés. Ils sèchent, tout simplement. Ils sont conservés dans des petits papier de cristal et les collections peuvent se conserver plusieurs dizaines d'années. Donc c'est finalement pouvoir transmettre quelque chose qui a disparu il y a fort longtemps. C'est le propre même du cabinet de curiosité, comprendre cette ambiance incroyable, éveiller la curiosité. Et les animaux naturalisés seront probablement un des rares moyens de voir des espèces qui auront disparu dans quelques générations.
Et vous pensez à quels animaux, par exemple? Quelles espèces?
Ah bah, toutes les espèces dont on parle actuellement sur cette extinction du vivant, des milliers de sortes d'insectes, des mammifères, des poissons qui vont s'éteindre petit à petit, et la chaîne du vivant qui va être cassée. Donc ça, c'est malheureusement un des enjeux majeurs de l'urgence donc climatique dont il faut prendre conscience. Et aujourd'hui, comme le disait très justement Edouard tout à l'heure, observer le vivant, comprendre le vivant, s'en émerveiller, c'est aussi avoir envie de mieux le préserver, et c'est aussi agir pour l'écologie et pour le monde de demain.
Oui. Et Francine, il y a déjà des animaux qui sont présents, qu'on peut voir au cabinet des Rolls, qui ne sont plus, qu'on peut plus voir dans la nature, qui sont des espèces disparues?
Alors malheureusement non, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que nous ne sommes pas un musée au sens propre du terme. Donc ça, c'est la fonction des musées, comme le Muséum d'histoire naturelle. Ensuite, parce que nous avons subi un terrible incendie en 2008 qui a malheureusement ravagé nos collections anciennes, notamment d'insectes, où là, il y avait probablement des pièces incroyables. Alors je ne sais pas si certaines ont disparu aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des collections patrimoniales qui, elles, ont disparu avec cet incendie.
Tout a disparu avec l'incendie?
95% de ce que nous avions à l'étage a disparu, au sens de soit cela a été brûlé par les flammes,
oui,
soit recouvert de suie et d'eau, effectivement.
Oui. Mais vous avez reconstitué, il y a des milliers d'animaux à découvrir, c'est ça?
Des milliers d'insectes, oui, sûrement, et des centaines d'animaux, je dirais, qui sont renouvelés régulièrement au gré de la mortalité des pièces.
Oui.
Donc il y a parfois des animaux assez communs, comme des petits lapins ou des petits renards, mais ou des coqs et des poules, mais toujours avec des couleurs incroyables. Et les enfants sont émerveillés, ils courent partout, et nous les accueillons avec plaisir des classes, beaucoup de classes également qui viennent comme sorties scolaires. Donc ça aussi, on les accueille avec plaisir, surtout avec un planning, bien entendu.
Oui, oui. Quelles sont vos actualités, des événements que vous mettez en place au cabinet des Rolls?
Alors, au cabinet des Rolls, nous organisons plusieurs expositions artistiques, puisque une des fonctions et la raison d'être aujourd'hui de la Maison des Rolls, c'est d'être un langage. Historiquement, nous avons été fédérateurs entre les différentes générations, entre des mondes qui ne se parlent pas, entre l'abstrait et le concret. Et aujourd'hui, nous avons, via les planches pédagogiques et nos actions, nous avons un véritable langage commun et un rôle de fédérateur. Donc, je vous ai beaucoup parlé de la boutique du cabinet des Rolls au 46 rue du Bac. Ce grand cabinet de curiosité est probablement l'un des derniers au monde ouvert au public, avec cette histoire, ce lien avec la pédagogie.
L'entrée est gratuite.
L'entrée est gratuite, absolument. On peut y passer des heures, revenir tous les jours avec qui on veut. Mais il y a des activités un petit peu moins connues de la Maison des Rolls, et qui consistent en fait à transmettre ce lien à la nature, cette ouverture au monde, via un rôle de consultant auprès des grandes entreprises, auprès des institutions. Nous concevons des écosystèmes écologiques, résilients et sobres, bas carbone, notamment pour les grandes entreprises, pour les aménageurs, qui ont besoin d'avoir cet œil du naturaliste, vieux de 200 ans, mais toujours actuel, toujours passionné par le vivant et par la biodiversité. Donc un rôle de consultant via notre département d'Hérol Territoire. Nous avons par exemple conçu avec des architectes le 9e quartier de Versailles, le quartier de Galli, avec ICAD. Nous avons en Chine réfléchi à la conception d'un parc écologique et touristique lié aux pandas à Chengdu. On parle beaucoup de la Chine en ce moment. Et puis, donc, nous avons ce rôle de consultant issu de notre ADN donc de naturaliste. Et puis, nous sensibilisons à l'écologie par un autre biais qui est toujours l'art et les émotions. Donc, nous avons fêté nos 190 ans l'année dernière, en 2021, avec Le Petit Prince, qui lui fêtait ses 75 ans, à travers une exposition conçue et réalisée par Dérol au château de la Bourdaisière en Touraine, qui s'appelle « Dessine-moi ta planète ». « Dessine-moi ta planète », c'est 10 postures autour de l'écologie, comment développer son imaginaire, comment faire face à l'inattendu, comment réfléchir à l'espace. C'est 10 étapes, 10 postures, 10 lieux qui éveillent la curiosité, éveillent les sens et interrogent l'enfant, les scolaires, les adultes via cet ambassadeur du monde de demain qu'est le Petit Prince et via ce langage pédagogique, ce langage fédérateur qu'a Dérol.
Oui. Francine, on arrive au terme de l'émission. On va rappeler l'adresse du cabinet Dérol. Comment s'y rendre? C'est où exactement? C'est à Paris.
Alors, c'est à Paris, au 46 rue du Bac, pas très loin du musée d'Orsay et de Saint-Germain-des-Prés, métro rue du Bac.
Et vous êtes ouvert de...
Nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 10h à 19h, avec des équipes formidables présentes qui pourront répondre à vos questions, éveiller votre curiosité. Et puis l'exposition « Dessine-moi ta planète » rouvre à la Bourdaisière en Touraine, à partir du 1er avril jusqu'au 30 octobre. Donc là encore une exposition. L'exposition se tient dans un parc. On est dans la nature, donc c'est merveilleux avec des arbres remarquables, labellisés. Et puis, pour retrouver et agir autrement pour l'écologie, notre adresse dans nos bureaux, rue de Fürstenberg, où là, nous avons une équipe de consultants qui s'adresse plus aux entreprises et aux institutions pour apprendre à construire ensemble le monde de demain.
Oui, et Francine Campa du cabinet Dérol, je vous rappelle que pour signer la pétition, il faut se rendre sur Internet, donc change.org. Vous pouvez vous rendre sur le site Internet du magazine Épatant et vous pouvez même acheter le magazine Épatant au prix de 5€ en kiosque ou dans la rue pour en savoir plus sur la leçon de choses. Merci à vous.
Merci Carole.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.